carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Sous le regard de Goethe, deux siècles de dessins français des musées de Weimar. Une exposition de dessins français des 17e et 18e siècles collectionnés par Goethe est présentée pour la première fois en France au musée Jacques Marandré à Paris. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Rosenberg de l'Académie française qui est le commissaire principal de cette exposition. Monsieur Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Canal Académie. Rappelons que vous êtes membre de l'Académie française, officier de la Légion d'honneur, mais également grand officier et commandeur de l'Ordre du Mérite, respectivement de la République italienne et de la République fédérale allemande. Je précise à nos auditeurs que vous êtes président-directeur honoraire du musée du Louvre, musée que vous avez dirigé de 1994 à 2001. Nous nous adressons aujourd'hui à l'historien de l'art, spécialiste mondialement reconnu du XVIIe et XVIIIe siècle, notamment dans le domaine du dessin. Et parmi les nombreux ouvrages que l'on vous doit et qui font autorité, on peut en effet signaler du dessin au tableau, publié en 2001 chez Flammarion, où il est principalement question de Poussin, Watteau, Fragonard, David, Wingre, artistes qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui. Mais revenons à Jacques Marandré, ce merveilleux hôtel particulier devenu musée en plein cœur de Paris et que nous avons déjà eu l'occasion de présenter à nos auditeurs lors de différentes expositions. Et aujourd'hui, il nous invite plus particulièrement à la cour de Weimar, au Grand-Duché de Saxe-Weimar-Eisenach, réputé pour son prestige intellectuel au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe. Et Johann Wolfgang von Goethe y joua le rôle de conseiller privé à une époque où le rayonnement culturel de la France exerçait une influence prédominante dans le Saint-Empire romain germanique. Et très attiré par l'art français, Goethe constitua cette fabuleuse collection de dessins du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est dire si votre éclairage va nous être précieux. Les feuilles présentées ici sont issues des collections personnelles de Goethe, actuellement conservées au Goethe National Museum à Weimar et aussi au Schloss Museum de la même ville. Voilà pour le cadre de cette superbe exposition où nous avons la chance de vous suivre, Pierre Rosenberg, en votre qualité donc de commissaire principal. Alors, la première question que l'on a envie de vous poser concerne Goethe lui-même. Un choix n'est jamais neutre. Que nous livre-t-il de lui, de sa personnalité, à travers la tonalité générale de cette collection? Peut-on dire que Goethe soit lisible à travers ce choix?
Non, certainement pas. Si vous voulez, Goethe s'occupait de tout. C'était un esprit extrêmement curieux. C'est peut-être le dernier grand esprit universel que la civilisation européenne ait connu. Il a cru qu'il aurait pu tout connaître, avoir des idées nouvelles sur tout ce que l'homme avait pu produire par le passé. Et incontestablement, les œuvres d'art ont joué un rôle chez lui. Je précise tout de suite que, bien sûr, il y a la collection personnelle de Goethe qui est conservée au Goethe Museum, mais qu'il y a par ailleurs la collection qu'il a constituée pour le Grand-Duc. Et je précise aussi que tous les dessins exposés en ce moment à Jacques Marandré ne proviennent pas forcément ou de Goethe ou de la collection qu'il a constituée pour son protecteur, pour son prince. Alors, Goethe, en fait, voulait l'esprit universel et sa collection de dessins s'accompagnait d'ailleurs d'une très importante collection de gravures. Ce qu'il voulait à travers ses doubles collections, c'est un petit peu raconter l'histoire des arts, des origines jusqu'à lui. Il voulait des témoins, un peu de toutes les grandes formes d'art du passé, de tous les grands créateurs du passé. Et parfois, quand la collection ne possède pas de dessin de l'artiste qu'il voulait représenter, ces artistes sont représentés par des gravures. Donc il y a, on sent bien, chez Goethe, non pas son goût personnel, sur lequel on peut dire quelques mots tout de suite, mais il y a surtout la volonté encyclopédique, qui est bien une idée, en effet, de la Aufklärung, des Lumières, et une des idées que reprendra, bien sûr, le Louvre et les musées. musée à partir de 1793 avec la création du Louvre, justement, musée qui se voulait encyclopédique. Alors, le goût de Goethe, puisque vous me posez la question, oui. On le connaît un petit peu maintenant, son goût de Goethe. D'ailleurs, lui-même était un assez bon dessinateur. Son goût, c'est plus l'Italie que la France. Et on sait bien qu'en fait, il ne la connaissait pas, la France, ou très très mal, ou très très peu, en dehors de Strasbourg. Et qu'en fait, son cœur, son goût, c'était l'Italie. L'Italie, pas tellement l'Italie contemporaine, bien qu'elle ait joué un grand rôle, mais surtout l'antique. Le monde de l'Antiquité était pour lui, comme pour beaucoup de personnes de son époque, absolument crucial. Alors, les artistes qu'il a aimés, là aussi, on peut s'interroger un petit peu. Il est, par exemple, complètement passé à côté de Gaspard David Friedrich, qui est quand même le grand artiste allemand presque contemporain de Goethe, qu'il n'a pas du tout compris et qu'il n'a même pas vu, si j'ose dire. Son goût, c'était un peintre sur lequel il a écrit un livre. C'est un artiste qu'on a longtemps, qui a été très célèbre, qui est tombé dans l'oubli le plus total et dont la résurrection est toute récente. C'est Hackert, qui est un peintre d'origine allemande qui a travaillé toute sa vie en Italie et pour lequel Goethe avait une passion, pour qui Goethe avait une passion absolue. Et ce goût pour Hackert s'explique par l'autre grand artiste que Goethe a aimé, qui est heureusement bien représenté dans sa collection et par conséquent dans l'exposition du musée Jacques-Marandré actuelle, c'était Claude Lorrain, Claude Gelée. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que Claude unit à la fois une vision d'Italie moderne, l'Italie contemporaine, les paysages de l'Italie, ces paysages qui, pour un homme du Nord, sont toujours un grand plaisir, et en même temps une recréation de ce qui, pour Goethe, a quand même été un idéal jamais atteint, la recréation du monde antique. C'est-à-dire cette espèce d'âge d'or, cette espèce de perfection qui est représentée pour les contemporains de Goethe et pour Goethe lui-même, était absolument inégalable et inégalée. Donc, à travers Hackert, son contemporain, et à travers Claude, son ancêtre, enfin, artiste du XVIIe siècle, bien sûr, qui a passé l'essentiel de sa vie, comme vous le savez, en Italie. Voilà un peu le goût personnel de Goethe. Oui. La collection, elle est, comme je l'ai dit précédemment, elle se veut encyclopédique et elle se veut faite par un homme qui n'était pas un historien d'art. Bien que l'histoire de l'art naisse en Allemagne, plus ou moins à l'époque de Goethe, Ramdor et autres, lui-même n'était pas un historien d'art. Les questions essentielles pour les historiens d'art d'aujourd'hui, qui sont les questions d'attribution, par exemple, Goethe n'en avait pas conscience, d'où d'ailleurs les très nombreuses erreurs d'attribution.
Oui, on va peut-être en parler tout à l'heure. Oui, bien. En effet. Donc, on pourrait dire que c'était un choix plutôt aléatoire d'un amateur éclairé.
Non, je crois pas. Je crois que c'est le choix volontaire, avec des moyens financiers limités pour ce qui est de Goethe, plus important pour le grand-duc, avec l'idée, tout à fait dans l'époque, d'un échantillonnage de tout ce que le passé avait eu comme grand artiste. Il y a une volonté encyclopédique, racontée à travers une collection de gravures et de dessins, l'histoire des arts.
Oui. Et vous, Pierre Rosenberg, vous sentez-vous proche de ce choix, eût-il été le vôtre de cette époque ?
L'exposition, si vous voulez, a été faite de la manière suivante. Nous sommes allés avec mes deux collaborateurs, Benjamin Perronnet et David Mandrella, souvent à Weimar, plusieurs fois, et nous sommes passés à travers l'ensemble de la collection, qui est immense, de dessins italiens, de dessins nordiques, de dessins allemands. Nous avons tout regardé pour essayer de choisir parmi tous ces dessins, les Français bien sûr en priorité, mais certaines des feuilles les plus importantes de l'exposition étaient classées par Goethe ou par ses successeurs sous de fausses attributions, pour essayer de faire un choix de ce que nous estimions, nous, les œuvres les plus intéressantes, les plus belles, mais aussi parfois les plus intéressantes du point de vue de l'histoire de l'art, pour essayer de faire un choix de ce qu'il y avait de meilleur dans ces collections de Weimar.
Pour résumer, c'est
notre choix.
Notre choix.
C'est d'accord. Notre choix dans une collection. Le catalogue, par exemple, bien sûr, consacre de grandes notices très longues et très détaillées à chacun des dessins exposés, mais comporte à la fin un inventaire de tous les dessins français de la collection de Weimar, un inventaire avec des petites photographies de tous les dessins français et avec des propositions de réattribution de ces dessins. Oui. Je prends l'exemple du dessin de Bellange, par exemple, qui est une des belles découvertes de l'exposition. L'artiste lorrain Jacques Bellange ou Jacques de Bellange, qui est aujourd'hui très populaire et qui est très aimé à cause de ses gravures, eh bien ce dessin-là, il était classé à Weimar sous le nom de Van Dyck. Van Dyck.
Ah oui.
Et il y a d'autres exemples comme ça de dessins. Et par exemple, pour dire le contraire de l'exemple que je viens de citer, Goethe se devait d'avoir des dessins de David, puisqu'après tout, David était l'artiste de loin le plus célèbre du temps de Goethe. Mais il sait, comme disent les plus jeunes, et comme on ne doit pas dire à l'Académie française, il s'est planté. C'est-à-dire que les dessins de David, qu'il croyait être de David, ne sont pas de David.
C'est-à-dire le marchand qui lui a vendu ses dessins,
s'est trompé.
N'était quand même pas spécialiste.
Le marchand qui a vendu, en fait, en l'occurrence, celui qui a été un peu trompé, c'est un très grand savant allemand, c'est von Humboldt, qui habitait Paris à l'époque et qui, je ne sais pas comment, s'était procuré ces dessins qu'il a envoyés à Goethe. Alors, savait-il qu'il n'était pas David, mais manquait-il de moyens pour en acheter de vrais, ou au contraire, avait-il lui-même une première fois trompé? En tout cas, ces dessins n'ont aucune chance d'être de David. Mais Goethe était convaincu d'avoir...
Oui, donc on est en plein dans la question que je voulais vous poser, donc au sujet de l'attribution. Oui. Elle pose souvent un problème en peinture et vous venez de parler du dessin, où évidemment il y a eu énormément de fausses attributions aussi. Et je crois savoir justement que vous avez eu à trancher sur l'authenticité de certains dessins cette collection et en général.
Bien sûr. Si vous voulez, autant en art, il n'y a pas progrès. On ne peut pas dire que Raphaël soit mieux que Giotto, ou que Caravage soit mieux que Raphaël, ou que Manet soit mieux que Caravage, ou que Picasso est mieux. Il n'y a pas de progrès en art. Il y a évolution, il y a transformation. Les styles évoluent, mais l'art, par définition, ne progresse pas. En revanche, en histoire de l'art, il y a progrès. C'est-à-dire que, c'est comme toutes les disciplines scientifiques ou pseudo-scientifiques, scientifiques, n'ayons pas peur d'utiliser le mot, nous en savons plus aujourd'hui sur les attributions des dessins que nos grands-parents n'en savaient. Et ça n'est qu'un début.
Vous êtes un des grands spécialistes.
Moi, j'aime bien faire des attributions, c'est vrai. Et puis, on m'a toujours reconnu certains mérites, mais je n'y peux rien parce que c'est un don. Et les dons, on les hérite, on peut les cultiver un petit peu, mais après tout...
Ah, vous diriez que c'est un don.
Ah, l'attribution, ah, oui. Oui. L'œil, c'est
pas une science,
c'est comme les pianistes, si vous voulez.
Cumulé à la science.
Non, les pianistes, qu'est-ce qu'ils font? D'une part, il y a ceux qui sont particulièrement doués, mais pour être particulièrement doué, d'une part, il faut quand même faire ses gammes tous les jours. C'est un mélange de travail et d'un don. C'est comme les pianistes, c'est comme les médecins. Il y a des grands médecins qui ont ce don du diagnostic, et puis qui par ailleurs, évidemment, sont des grands travailleurs. Je ne dis pas le contraire, mais le don est une chose innée, qu'il faut cultiver.
Le don du regard, donc.
L'œil, ce qu'on appelle, dans un terme difficile à définir, l'œil, qui est en fait la possibilité de donner à une œuvre qui a perdu son attribution, qui a perdu son nom, ou qui porte un faux nom, son vrai nom. Alors, c'est un réflexe, c'est rien de plus. Quand vous recevez votre courrier le matin, vous n'avez pas besoin de lire la signature pour savoir qui vous a écrit. L'écriture vous permet tout de suite de dire c'était un tel, c'est pas un tel. Alors, c'est parfois plus difficile que ce que je viens de dire. Ça, c'est l'exemple simple. Il y a des choses plus difficiles.
Je me doute, parce qu'il y a une infinité de dessinateurs, surtout dans cette époque, enfin même dans les époques antérieures. Parce que chaque artiste a commencé à préparer ses tableaux, même les grands peintre du 16e avec des dessins.
Oui, et puis il y a des phénomènes de l'attribution. Je prends l'exemple de Rembrandt, puisqu'on en parle beaucoup cette année. L'œuvre de Rembrandt a connu des phénomènes de soufflet. Il y a eu des moments où on a dit Rembrandt a peint 1000 tableaux, et puis il y a des moments où on a dit qu'il n'en avait plus peint que 300. Et puis, donc, les artistes, comme des soufflets ou comme des poumons, se remplissent d'air, leur œuvre pousse, croît, et puis d'après, ils se réduisent sous l'effet, en effet, d'historiens d'art qui sont plus ou moins doués. Alors, par exemple, dans le cas de Rembrandt, puisque je parle de lui, on est arrivé, il y a quelques années, à un moment d'extraordinaire retraitissement de l'œuvre de Rembrandt. Le nombre de tableaux qu'on lui donnait, qu'on était sûr de pouvoir lui attribuer, ne dépassait pas 300. Et maintenant, la tendance est un petit peu à la remontée. On pousse un peu plus loin, on doit être, je ne sais pas à combien on est maintenant.
Oui, il y a une grande polémique il y a quelques années.
Il y en a tous les jours, des polémiques. Les polémiques ne sont pas très intéressantes parce que c'est en général livré à des journalistes qui ne comprennent rien à ces questions d'attribution. Il faut le dire carrément. Mais il y a des grandes polémiques entre historiens d'art qui sont passionnantes. Alors là, il faut aussi ajouter une autre chose, c'est que si mon jugement sur Rembrandt n'en a aucune valeur. Je ne suis pas spécialiste de Rembrandt, je ne connais rien à Rembrandt, j'en connais. Mais si vous voulez, si je porte un jugement sur un tableau ou un dessin de Rembrandt, il n'a pas de poids. En revanche, sur certains artistes dont je me suis beaucoup occupé, par le fait que je les ai pratiqués, par le fait que je me suis familiarisé avec leur œuvre, que je connais, je crois, l'essentiel de leur production, j'espère que mon jugement, ce soit sur Poussin, sur Watteau, sur des artistes de ce genre, sur David, j'espère que mon jugement a plus de poids. Parce que c'est là aussi, la spécialisation actuelle est devenue telle qu'on ne peut plus embrasser l'ensemble des arts du passé. Il faut se spécialiser. Moi, j'ai mes deux siècles, mes deux pays, l'Italie et la France, la peinture et le dessin. Les plus jeunes générations ont des champs de travail des beaucoup plus restreints. De mon temps, c'était des...
C'est déjà un domaine extrêmement vaste.
C'est un domaine très vaste, mais aujourd'hui, les plus jeunes, à cause de la multiplication de la littérature, à cause de la multiplication du nombre d'artistes aussi, si vous voulez que l'on connaît, sont spécialisés sur un seul artiste. Ils passent leur vie sur Annibal Carrache, sur Ludovic Carrache.
Et quand on lit votre bibliographie, on est vraiment impressionné par la longue, longue liste de vos ouvrages et des catalogues.
Oui.
Raisonner, etc.
Oui. Bah, ce que j'ai surtout aimé faire dans ma carrière, c'est surtout le domaine où j'ai peut-être fait mes meilleurs travaux, c'est évidemment les catalogues d'exposition. Parce que je trouve que réunir l'œuvre d'un artiste, essayer d'en comprendre le cheminement, l'évolution de la pensée de l'artiste à travers ses œuvres, le faire sous la forme d'un catalogue, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un livre, quelque chose en plus, un catalogue que l'on écrit à l'avant que les œuvres ne soient vraiment réunies sur les murs, puisque quand vous écrivez votre catalogue, l'exposition n'est pas faite, bien sûr. Voir ensuite, quand les œuvres arrivent dans les lieux où elles sont exposées, si pouvoir contrôler sur pièce si ce que vous avez écrit est juste ou faux, c'est parmi les choses que j'ai trouvées les plus amusantes de ma vie.
D'ailleurs, je rappelle à cette occasion à nos auditeurs, à nos internautes, qu'ils trouveront la liste non seulement de la bibliographie, elle est longue, comme je viens de dire, de Pierre Rosenberg, mais aussi les références du superbe catalogue qui est de cette exposition sous le regard de Goethe, qui est édité en français, en anglais et en allemand, qui est intitulé « De Callot à Greuze, les dessins français des XVIIe et XVIIIe siècles des musées de Weimar ».
Tout simplement parce que l'exposition, avant d'être présentée à Paris, avait d'abord été présentée à Weimar, et c'était la moindre des choses, puis à New York, à la Frick Collection.
Oui. Bah,
il est donc normal que les visiteurs de ces différents lieux puissent se procurer le catalogue dans leur langue.
Bien sûr, oui. Donc, oui, pour rester encore un petit peu dans ce domaine, permettez-moi d'insister, il y a quand même eu des idées directrices qui vous ont guidé pour cette sélection dans cette multitude de dessins des musées de Weimar.
Tout à fait vrai. Si vous voulez, les idées directrices, elles sont assez simples. Elles sont naturellement d'abord la qualité, c'est-à-dire montrer les plus beaux dessins, d'un second lieu de montrer des dessins des plus grands artistes. Alors Callot est très bien représenté, magnifiquement représenté, comme Goethe n'avait qu'un seul dessin de Watteau, mais il est très beau, j'aurais préféré qu'il en eût plus. Sont très bien représentés également Boucher, il avait toute une série
magnifique.
De Boucher, magnifique, et on a du mal d'ailleurs de la part de cet austère Goethe de voir pourquoi il avait il a porté cet intérêt sur Boucher, mais la véritable, si j'ose dire, nouveauté de l'exposition, c'est d'abord que les dessins n'étaient pour ainsi dire pas connus avant qu'ils ne soient exposés, et secondement que nous avons voulu, mes deux collaborateurs et moi-même, Benjamin Perronnet et David Mandrella, insister sur les petits maîtres, montrer que l'histoire de l'art évolue et que les grands noms d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les grands noms de demain et qu'ils ne sont pas les grands noms d'hier. Et par conséquent, tenter de réhabiliter des artistes qui étaient célèbres au XVIIe ou au XVIIIe siècle et au contraire, par notre choix, insister sur des artistes que nous estimons méconnus et qui mériteraient une plus grande place. Je prends l'exemple de Karl van Loo, bien représenté à Weimar. Au XVIIIe siècle, il était considéré, je cite Frédéric le Grand de Prusse, qui disait que c'était le plus grand peintre de l'Europe. Karl van Loo était, quand il est mort en 1765, considéré comme plus célèbre, bien sûr, que Boucher. Sa gloire a dépassé celle de Tiepolo. C'était considéré le plus grand peintre de l'Europe. Et en revanche, le goût du XVIIIe que nous avons aujourd'hui, nous l'avons hérité du XIXe siècle. C'est ce goût que l'on peut résumer par quelques noms, qui sont Boucher, Watteau, Fragonard. Voilà les grandes vedettes du XVIIIe siècle. Ces artistes n'étaient pas connus comme ils le sont aujourd'hui au XVIIIe siècle, mais le XXIe siècle remettra à l'honneur des artistes qui ont connu la gloire ou une semi-gloire au XVIIIe siècle et qui mériteraient en effet d'être réhabilités, comme Sublet-Rasse. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui mériteraient qu'on les... qu'on les étudie mieux.
Oui, et le dessin, je crois, devient à la mode. Dans le marché de l'art.
Oui, le dessin est très à la mode maintenant, depuis un certain temps. Les dessins coûtent presque plus cher que les tableaux. Il y a surtout en ce moment un petit phénomène assez triste, le désintérêt du marché en tout cas, et même des collectionneurs, et même des musées, pour le XVIIIe siècle. Ça frappe plus la peinture que le dessin, ça frappe beaucoup le mobilier. Il y a une évolution du goût qui évidemment touche considérablement ce XVIIIe, qui se voulait un siècle agréable, un siècle où on cachait ses souffrances derrière un sourire, un siècle qui paraît léger mais qui ne l'est que parce que c'est la légèreté était une manière d'être assez profond. Et évidemment, ce genre d'idéaux ou d'idéal n'est pas du tout de mode aujourd'hui, où au contraire on insiste sur l'horrible, où on veut provoquer, où l'expressionnisme là, était absolument une nécessité, où la provocation fait partie de toutes les formes d'art. On a l'impression que l'idéal artistique des plus jeunes générations n'est plus du tout le même que celui qui a prévalu au XVIIIe siècle.
Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, qui sont en l'occurrence des internautes, la différence entre le dessin du XVIIe et du XVIIIe ?
Oui, il y a une énorme différence, c'est évident. Et d'abord, je ne crois pas qu'on puisse opposer les deux siècles. Il y a une transition qui se fait. Si vous voulez, il y a Louis XIII d'abord. Louis XIII, c'est l'austérité, avec bien sûr Poussin et Claude qui vivent à Rome. Mais c'est aussi évidemment toute cette école parisienne. C'est ce qu'on a appelé, qu'on a défini par un mot, l'atticisme, qui c'est naturellement Lahir. C'est aussi Bourdon. Ce sont tous ces artistes-là qui sont maintenant revenus à la mode. Et puis après, il y a le siècle de Louis XIV. Ce qui commence triomphalement avec Lebrun, très bien représenté d'ailleurs à Weimar, et avec toute une kyrielle d'élèves, toute une série d'élèves très importants. Et puis il y a la réaction anti-Lebrun et vers un art plus élégant, plus souple. Naturellement, c'est symbolisé par Watteau. Le XVIIIe siècle lui-même d'ailleurs évolue considérablement, puisqu'il part d'un artiste introverti, romantique, triste, poétique, qui est Watteau, pour s'achever avec David, artiste austère, rigoureux, qui marque une volonté de retour à l'antique. Donc vous voyez, là encore, l'évolution est profonde, et résumer un siècle par un nom, c'est le réduire. Et ça, ce n'est pas mon propos.
Et une question au sujet de la technique proprement dite. On parle de pierre noire, de plumes, d'encre brune, de lavis, de sanguine et autres outils
bien
ou
sûr.
Médiums qui sont familiers à certains, mais beaucoup moins à d'autres. Donc, ça ne sera peut-être pas un luxe pour personne, je pense, d'écouter quelques rappels d'histoire de l'art, section art graphique.
Oui.
On se doute que ces techniques se modulent d'une époque à une autre et d'un artiste à un autre, mais sans doute pourrez-vous nous en donner un aperçu au travers de cette exposition en particulier, en quelques mots, si ça vous...
Oui, bien sûr. Ceux qui préfèrent en effet la plume, qui est une manière d'écriture, et ceux qui préfèrent les crayons. Alors la plume, ça s'utilisait, enfin c'était des plumes d'oie en général, mais pas forcément, et avec une encre qui était très souvent du brou de noix. Et il y a des artistes en effet qui privilégient la plume au crayon. Alors les crayons sont de plusieurs couleurs. Il y a bien sûr les crayons de sanguine, et puis il y a ce qu'on appelait la pierre noire, qui était une pierre très dure, noire par définition. Et puis il y a évidemment ceux qui mélangent ces techniques, comme Watteau, qui est le père de ce qu'on appelle les trois crayons, c'est-à-dire en effet la sanguine, la pierre noire, avec des roues de craie blanche. Et au fond, les artistes ont leur moyen technique de prédilection. Callot, évidemment, aime beaucoup la pierre noire et aime beaucoup la plume, il pratique peu les crayons, au contraire. Et puis il y a aussi, ils ont aussi leur papier. C'est très curieux. Il y a des artistes qui sont à l'aise avec des papiers brunâtres, d'autres sur des papiers bleus. Et il y a en effet, du point de vue technique, tout un apprentissage à faire pour qui veut s'intéresser au dessin, assez facile. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont amusantes.
Oui.
Il y a les marques de collection, par exemple. Les collectionneurs qui apposent sur leur dessin un cachet qui est celui qui veut dire « c'est à moi ». Alors le plus célèbre des collectionneurs du XVIIIe siècle, sur lequel je travaille d'ailleurs en ce moment, le plus grand amateur, celui qui est considéré comme le plus grand œil du XVIIIe siècle, et dont Weimar possède plusieurs feuilles, c'était Mariette, Pierre-Jean Mariette. Et lui, sur chacun de ses dessins, il appose un petit thème dans un cercle caché, ancré, qu'il appose sur chacun de ses dessins. Et en plus, il va plus loin, puisqu'il les monte, ses dessins, c'est-à-dire qu'il les colle sur une feuille bleue, avec une marge blanche et des filets or.
Passe-partout.
Oui, c'est ça, un montage qui, pour mieux le mettre en valeur. Donc, les collectionneurs, il y a les techniques de prédilection de chaque artiste. Il y a les collectionneurs qui sont fiers de posséder certains dessins et qui veulent les mettre en valeur le mieux possible par leur montage. Il y a, si vous voulez, s'intéresser au dessin vous ouvre toutes sortes de mondes. Je ne vais pas parler des ventes, je n'ai pas parlé des prix des dessins, je n'ai pas parlé des rivalités entre les collectionneurs. Tout ça, c'est le monde du dessin est un grand monde qui aujourd'hui, vous avez raison de l'avoir dit, est à la mode aussi bien parmi les collectionneurs, dans le commerce. Paris s'honore du Salon du Dessin qui se tient tout près d'ici et qui est un événement mondial où on rencontre tous les spécialistes du dessin de tous les siècles qui se donnent rendez-vous au Salon du Dessin. Mais c'est aussi naturellement un monde où le nombre de conservateurs qui se passionnent au dessin a beaucoup augmenté ces dernières années.
Et y a-t-il une spécificité du dessin français ? Par rapport au...
Oui, je crois qu'on peut dire
qu'il y a une spécificité. L'Italie ou la Hollande.
Mais comme toujours, dès qu'on parle de spécificité du dessin ou de la peinture française, tout de suite vous viennent aux lèvres ou à l'esprit des noms qui font exception à ces règles. Mais je crois quand même que le dessin français se caractérise, comme la peinture française, par... c'est un art qui n'est pas expressionniste, c'est donc un art retenu, c'est un art silencieux, c'est un art de poésie, de raffinement, de discrétion, et il n'y a pas d'exclamation dans le dessin français, il y a rarement de l'exclamation, je vous dis, il y a des exceptions. C'est un art, au contraire, plutôt réfléchi, concentré, raffiné, silencieux. Et le mouvement n'est pas la spécialité des dessinateurs français, alors que c'est la spécialité évidemment des dessinateurs baroques italiens. Il y a une sorte de volonté de se contenir. La virtuosité, quand elle existe chez les dessinateurs français, et elle existe souvent chez les dessinateurs français, il ne faut pas la montrer. Et la grandeur de la virtuosité des dessinateurs français consiste à la faire deviner, mais pas à en faire étalage. Donc voilà, mais enfin, je répète que ces indications sont des indications et qu'il y a des exceptions, bien entendu.
Oui, c'est l'essentiel de la culture française, oui. Je vous propose une petite pause musicale, si vous voulez bien. Nous reprenons notre entretien avec Pierre Rosenberg, commissaire principal de l'exposition « Sous le regard de Goethe » au musée Jacques Marandré, une exposition de 120 dessins français du XVIIe et XVIIIe siècle de la collection de Johann Wolfgang von Goethe, conservée au musée de Weimar. Après avoir suivi vos explications précieuses sur les œuvres réunies ici, je vous propose de partir à Weimar, au temps de Goethe. Pour situer un peu le cadre, nous pouvons évoquer ce duché de Saxe-Weimar-Eisenach, qui plus tard était proclamé République de Weimar en 1919. Pourriez-vous, Pierre Rosenberg, nous convier à la cour de Charles Auguste, dont Goethe fut ce qu'on appelait alors l'administrateur ou Geheimrat, un conseiller secret privé du duc? Goethe avait aussi appris la langue française, donc il était déjà en relation. Il avait appris aussi le dessin par un soldat ou un...
Non, il savait dessiner, c'était un bon artiste.
Militaire français.
Oui, un militaire français, mais il avait aussi des vrais professeurs locaux qui lui avaient bien appris. Il aimait dessiner et aquareller ses dessins. Oui, bien sûr, Weimar était un tout petit duché, avec un nombre d'habitants très restreint, mais avec un prince éclairé, bien entendu, et surtout avec une volonté d'être une sorte de capitale intellectuelle. intellectuels de l'Allemagne. D'où Goethe, d'où Schiller, d'où d'ailleurs le rôle que Weimar a continué à avoir pendant très longtemps, jusque bien sûr à la République de Weimar, de triste, enfin, c'est malheureusement très très mal terminé. Et par, à titre d'exemple, l'ensemble des musées de Weimar, qui possèdent des collections assez importantes dans toutes sortes de domaines, a une sorte de résidence pour les historiens d'art, et c'était la résidence qu'habitait la sœur de Nietzsche. Et qui, oui. Puisque Nietzsche lui-même a vécu un temps à Weimar et sa sœur.
La vilaine, la méchante.
Et oui, et cette maison, évidemment, est assez tragique puisque la sœur de Nietzsche vivait encore du temps d'Hitler, ou enfin sa fille, non, sa sœur, je crois, vivait du temps d'Hitler. Et Hitler est allé voir cette maison, il y est allé plusieurs fois. Alors c'était un petit peu gênant d'habiter ce lieu que.
Enfin, oui.
Non, mais c'était une grande capitale culturelle et un centre obligatoire. Alors, pour Goethe lui-même, naturellement, il parlait français, vous avez parfaitement raison, mais c'est pas une originalité. Tout le monde parlait français à l'époque, et Goethe, comme tout le monde, comme tous les principaux intellectuels de son temps, a même hésité un temps entre l'allemand, langue un peu méprisée encore, et le français, mais il n'est pas le seul, c'est pas du tout une originalité. Il y a une chose assez intéressante avec Goethe, et qui fait qu'il a eu une grande admiration pour Napoléon. Napoléon est venu lui rendre visite à Weimar, et cette Allemagne qui a joué un très grand rôle dans la défaite de Napoléon, qui ensuite le mouvement nationaliste allemand, patriotique allemand contre Napoléon et contre qui a été très vif, Goethe n'a jamais vraiment participé à ça. Il est resté, dans un certain sens, fidèle à Napoléon. C'est très curieux qu'il y ait eu cette fascination pour Napoléon, alors que c'était quand même, on aurait pu croire qu'il aurait pu être considéré comme l'ennemi. Et les visites de Goethe sont célèbres, les visites de Napoléon à Goethe sont célèbres, et les entretiens connus, Napoléon savait bien ménager sa publicité et faire en sorte que ses rencontres soient largement diffusées et oui. à son profit. Oui. Donc je crois que... Alors Weimar, il faut comprendre une chose qui explique aussi un petit peu l'exposition, c'est que Weimar était à l'Est. Alors l'Est était très fier de Weimar et c'était un peu la carte de visite culturelle officielle de la République démocratique allemande. C'est incontestable au point de vue des restaurations et tout cela. Il n'en empêche pas moins que, en dépit de cette importance que la RDA a voulu accorder à Weimar, les collections de dessins, les collections d'une manière générale, étaient plus ou moins... non pas à l'abandon, mais très peu étudié. C'était très difficile pour les gens de l'Ouest de venir les examiner, d'obtenir des photographies. Donc l'exposition, par sa nouveauté, par le fait que les dessins sont très peu connus, s'explique aussi par le fait que Weimar était à l'Est, si vous voulez, et qu'il a fallu que le mur tombe pour qu'on prenne conscience de ces collections, qu'on en prenne connaissance et qu'on les étudie aussi scientifiquement comme il convient de le faire, et ce que, bien sûr, du temps de l'Est, il n'était pas pensable de faire.
Oui, et donc c'est depuis que peu de temps seulement, voilà, depuis les années 90, voilà, que les historiens de l'art ont accès à
Absolument.
Ces dessins.
Et avant-guerre, on les connaissait très peu. Très
être
peu.
Oui. rendus publics.
Et on en rencontre encore à Weimar, j'en ai rencontré de gens qui regrettent le bon vieux temps, ce qui quand même est un peu fort de café.
Oui. Mais revenons peut-être chez Charles Auguste au XVIIIe siècle. Goethe arrive chez lui, il reste dans un premier temps une dizaine d'années.
Oui.
Avant son voyage en Italie.
Voilà. Et puis mais il devient, pour ainsi dire, non seulement le Geheimrat, c'est-à-dire le conseiller privé du duc, mais c'est un tout petit territoire. Enfin, mais il en est un peu le principal ministre, en un certain sens. Il en est un peu la carte de visite. Mais je pense que Charles Auguste, que je connais très mal, bien entendu, était, comme on dit, un prince éclairé, et qu'il avait compris tout l'usage qu'il pouvait faire de la présence de Goethe, de Schiller, de Kleist et d'autres à Weimar, pour la gloire et pour le tourisme de sa petite ville. Je crois que tout ça est un très bon arrangement, et que Charles Auguste, qui était tout sauf sot, avait bien compris en effet que pour lui, tout petit prince d'une région pas pauvre mais pas très riche non plus, il avait tout à gagner à jouer cette carte.
Oui.
D'où en effet les crédits qu'il a accordés, non seulement dans le domaine du dessin mais aussi dans celui de la peinture, mais aussi dans toutes sortes de l'architecture, pour faire de sa petite ville, une sorte de capitale culturelle.
Oui, il devait être très intelligent. Il lui a même permis de partir comme ça, sur un coup de tête en Italie, de s'absenter pendant 2 ans et d'enrichir pendant ce temps-là, d'ailleurs, sa collection.
Oui,
de
mais le voyage en Italie était totalement obligatoire, complètement impensable.
À l'époque,
pour Goethe, on en sent bien que, pour ceux qui le lisent aujourd'hui encore, on sent bien que le voyage en Italie, l'Italian Rise, était évidemment un moment qui a été majeur dans sa vie, dans son existence.
Oui.
Mais vous avez eu raison au début de dire que, parce que c'est un sujet un petit peu difficile à aborder, le mot est mal compris. Il y a une forme de francophilie de la part de Goethe. Comme vous le savez, il a introduit Diderot en Allemagne, il l'a traduit en allemand. Il a même été à l'origine de la publication en France des Salons. Donc Diderot a joué un grand rôle. Et puis il y a bien sûr les épisodes célèbres de la bataille de Valmy.
Oui.
Qui était la première bataille où des soldats de métier s'opposaient à des citoyens qui défendaient leur sol. C'est une idée toute nouvelle et ça, Valmy, même si la vérité historique est sans doute beaucoup plus nuancée, Goethe en a bien compris l'importance. Avec la phrase célèbre de ce jour commence une nouvelle ère de l'histoire. Oui. Et c'est vrai, c'était, on voyait des soldats qui se battaient pour défendre leur pays. Alors que jusque-là, les soldats, c'était des gens de métier qu'on payait pour, et qui changeaient de camp. Et là, il a compris ce que voulait dire la notion de patrie. Et donc, il ne peut pas dire qu'il était complètement fermé aux idées, à certaines idées de la Révolution, et qu'il avait bien compris quand même que là, se passait quelque chose de tout à fait nouveau, et que le monde ne serait plus ce qu'il serait après la Révolution et après Napoléon.
Il serait formidable de faire une émission spéciale rien que sur Johann Wolfgang von Goethe.
Faites-le. Les Français le connaissent si mal.
Un autre thème.
Les Français le connaissent si mal. C'est vrai.
Et Schiller encore moins.
Schiller, peut-être, si vous voulez, Goethe fait peur aux Français, cette espèce de monument, alors on le regarde de loin. Alors que Schiller, quand même, non. Mais c'est vrai, non, c'est sûr.
Il est connu comme plus révolutionnaire, correspondant bien au caractère français.
Oui, mais d'autre part, et c'est certain que sur Goethe, il ne faudrait pas que vous fassiez une émission, il faudrait que vous en fassiez toute une série.
10, oui. D'accord.
Pour chaque œuvre, pour le poète, bien sûr, mais aussi pour l'homme de
pour
théâtre.
Pour le scientifique.
Oui, mais alors là, c'est plus contesté. Il y a eu une exposition, comme vous savez. Il y a eu une exposition. Sur le scientifique, il paraît qu'il a dit pas mal de bêtises. Bon. Mais ça n'a pas d'importance. Dites par Goethe, ce ne sont pas des bêtises.
Pour revenir à notre sujet, à nous, aujourd'hui particulièrement, donc, cette exposition à Jacques-Marandré, des dessins du XVIIe et XVIIIe siècle. Pierre Rosenberg, si vous deviez choisir une œuvre de cette exposition coup de cœur pour formuler une conclusion, quelle serait cette œuvre et quelle serait cette conclusion ?
Oh, je vais être très banal. D'abord, je voudrais aussi remercier le directeur des collections de Weimar, Hermann Mildenberger, qui, sans lui, l'exposition n'aurait pas été possible, bien évidemment. Le dessin que je vais choisir, c'est le plus attendu, si vous voulez, c'est le dessin de Watteau, aux trois crayons, qui représente un couple qui se retourne un petit peu. Et en effet, il y a dans ce dessin toute la nostalgie, toute la tristesse, tout un petit côté serment de cœur incontestable. Si vous voulez, le monde de Watteau, c'est sans doute le plus grand dessinateur français de tous les temps, sans aucun doute le plus grand dessinateur de tous les temps, peut-être avec Seurat. Le monde de Watteau a quelque chose toujours qui fait qu'on oublie le dessin pour entrer dans un monde de poésie pure. Watteau, pour faire une image qui est fausse, mais qui est forte, Watteau, c'est Mozart.
Magnifique conclusion. Je vous remercie, Pierre Rosenberg. Canal Académie a été très heureux de vous recevoir et de bénéficier de votre éclairage sur cette exposition qui nous permet, grâce à vous, de nous faire redécouvrir un pan des richesses du patrimoine français et de son esprit sous le regard de Goethe. Je rappelle à nos auditeurs l'exposition de 2 siècles de dessins français, donc du XVIIe et XVIIIe siècle, des musées de Weimar, qui se tient actuellement au musée Jacques-Marandré, 158 boulevard Haussmann à Paris, au 8e arrondissement. À l'occasion de cette exposition, un superbe catalogue est édité en français, anglais et allemand, intitulé « De Callot à Greuze, dessins français des XVIIe et XVIIIe siècles des musées de Weimar », avec de précieux commentaires explicatifs placés en légende et bien sûr de magnifiques reproductions. Et je n'oublie pas de renvoyer nos auditeurs à la très riche bibliographie de Pierre Rosenberg sur notre site internet. Merci Pierre Rosenberg.
Merci à vous.
À bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.